Parmi les auteurs accueillis sur notre antenne durant le Festival des Correspondances en septembre, il arrive que certains de nos invités reçoivent, peu de temps après leur passage dans notre studio, de prestigieux prix littéraires. Et la dernière en date est Anne Pauly. Elle a obtenu hier le prix Inter, qui est décerné par des auditeurs de la radio publique, une belle récompense pour « Avant que j'oublie », un premier roman remarquable paru aux éditions Verdier. Le 28 septembre dernier, en compagnie de Sylvain Prudhomme et Louis-Philippe d'Alembert, Anne Pauly était notre invitée en direct pour peut-être sa première interview radio. Nous avons évoqué son roman, mais aussi son sentiment et sa réaction sur le festival Manosquin. En vous recommandant la lecture du nouveau prix Inter, retrouvons ce moment mistralien avec une auteure aujourd'hui primée et qui est appelée à un bel avenir littéraire. Bonjour Anne Pauly.
Bonjour.
Vous avez écrit « Avant que j'oublie » qui est paru aux éditions Verdier et je vais le dire tout de suite, vous avez obtenu en plus le prix envoyé par la Poste. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix comme ça lorsqu'on écrit ?
Eh ben, pour une prime romancière comme moi, c'est un encouragement vraiment important, enfin symboliquement et financièrement, ça encourage à écrire encore, enfin à continuer. Ça valide la vocation d'écrire. Si vous avez recevé un prix tout de suite en publiant un premier livre, ça.
En plus, c'est un jury qui est présidé par Olivier Poivre d'Arvor, donc c'est quand même plutôt prestigieux, c'est bien.
Hein, oui, c'est assez prestigieux et puis c'est un vrai prix de lecteur. Il y avait cinq ouvrages en tout, et ils ont été particulièrement touchés par le mien, les autres étaient aussi très bien.
Alors, on va parler de votre livre. On va rester dans le flou un petit peu encore un petit moment. Vous êtes ici donc pour la première fois forcément aux Correspondances de Manos. Quel regard vous portez sur ce festival?
Ben, je trouve que la programmation est riche. Je trouve qu'elle est riche, elle est dense, elle est très intéressante. Elle permet aussi de se faire rencontrer. Que les gens se rencontrent en fait sur des plateaux, que les œuvres soient croisées, finalement qu'on parle des œuvres de manière croisée, et je trouve ça intéressant de mettre en vis-à-vis les œuvres en fait. Ça,
et c'est aussi bien. Vous l'avez remarqué, ce côté convivial qu'offre la ville de Manos quand on croise un auteur, tiens on croise un musicien, et bon, tout le monde est abordable et tout le monde est abordé d'ailleurs.
C'est ça, voilà, ça fait que les mouvements sont fluides entre les gens et les discussions aussi. Et puis la ville est belle, quand même.
Merci. Alors, on va parler de votre livre, de votre roman, Avant que j'oublie. C'est un livre que vous avez écrit, on va dire que vous ressemblez beaucoup à la narratrice, ça vous va ?
Oui, on va dire ça.
Bon, mais vous n'êtes pas la personne principale, et en même temps, vous parlez d'un rapport particulier entre un père et sa fille, un père un peu particulier puisqu'il a un double visage, un peu comme le dieu Janus. Ivrogne, estropié, enfin il lui manque une jambe, colérique, particulier, et en même temps un poète, et un poète qui est vraiment adoré par sa fille, qui arrive à outrepasser un petit peu ce côté frustre et indélicat de la personne, et le personnage du père meurt. Le livre commence comme cela. Il va falloir remonter un petit peu le fil de sa vie, le fil de sa propre famille, mais aussi de ses connaissances antérieures. Vous avez un extrait éventuellement que vous avez choisi, Anne, pour nous mettre dans cette ambiance particulière.
Alors, c'est un extrait qui survient à peu près au début du roman. C'est après que la mort est passée. C'est les premiers protocoles du deuil qui sont dont il faut s'acquitter. Et il y a donc un passage aux pompes funèbres. Ensuite, il a fallu s'occuper des formalités. Elles ont commencé par une dispute avec mon frère aux pompes funèbres Le Creux et Fils, 27 600 Gaillon. Parce qu'il trouvait que les cercueils étaient trop chers. Tandis que le Mazarin, le Parisien, le Richelieu, le Sully ou le Turenne, poignées comprises et cuvettes étanches, évoluaient vers des versions plus actuelles dans le respect de l'environnement et des familles, on serrait les dents. Tandis qu'une certaine Jacqueline M., dans une brochure triste et fleurie, se félicitait du déroulement harmonieux de la cérémonie, on crevait de misère. Du racket organisé, du délit d'initié. « Moi, monsieur, je ne marche pas dans vos marges de malade et vos combines de merde », avait dit mon frère à monsieur le Creux-fils qui, de son côté, avait évidemment calculé une marge pour se dégager un salaire, ce qui semblait normal mais quand même un peu grossier compte tenu de ce qui venait de nous arriver. Au fond, j'étais d'accord avec lui sur l'obscénité de ce business de boîte, mais en ce moment difficile, ce n'était pas trop la peine de s'énerver parce qu'en réalité, la mort était déjà passée mon frère, le tardif et ses révolutions manquées.
Le business continue malgré la mort, si j'ai bien compris. Et c'est donc pendant tout le roman, on va avoir cet affrontement aussi entre le frère et la sœur, avec un retour aussi vers le passé. Qui était donc ce père qui est décédé? Et vous allez trouver dans les... D'abord, en l'accompagnant à l'hôpital dans le cadre de ses névroses, par exemple la carafe, ces scènes de la carafe qui sont un peu particulières, Anne, quand même.
Oui, enfin c'est surtout des scènes qui relatent, je pense que c'est des scènes que tout le monde a plus ou moins vécues, c'est des scènes qui sont traitées avec humour, c'est des scènes un peu tristes, c'est des scènes de disputes à l'hôpital, quoi, oui. Globalement, avec un mourant qui s'énerve, il va mourir dans quelques temps, et pourtant il s'énerve sur la carafe qui est pas assez remplie ou trop remplie, le store qui est baissé ou pas assez, etc. Et donc c'était important de, pour moi, en fait, ce que je voulais raconter, c'était le cocasse de ces situations, justement, qui sont à la fois tragiques, mais aussi comiques.
Et il y a quelque chose qui vous échappe, vous dites à un moment, partir le plus vite possible avant que sa névrose et ses angoisses ne me contaminent davantage.
Oui, ça c'est tous les enfants sont, d'une manière ou d'une autre, le réceptacle des névroses de leurs parents, à mon avis. Et donc, au moment où la mort s'avance, on est plus que jamais conscient de cet héritage qu'on a reçu de ses parents.
Vous allez fouiller, enfin la narratrice, pardon, va fouiller dans le passé de ce père et va trouver un personnage étonnant qui a un joli nom, un joli prénom, Juliette, et qui visiblement a été l'amour de jeunesse de ce père.
Oui, alors au départ, ce livre, c'était justement raconter le tragicomique de la mort et les situations absurdes auxquelles elle nous confronte, et puis finalement ça s'est transformé en une oraison funèbre, en quelque sorte un tombeau de mots, un mausolée. Et donc en déroulant les souvenirs comme ça, donc il y avait la description du personnage du père, de ce père un peu étrange, et qui avait une figure parfois dure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourtant, la narratrice va enquêter pour savoir qui il était vraiment, et elle fait intervenir une lettre qui arrive de l'extérieur pour que finalement ce portrait du père à plusieurs facettes s'achève comme un puzzle. Et c'est une lettre qui explique à quel point cet homme était, quand il était jeune, un poète, un contemplatif et un garçon qui aimait courir les bois et faire de la guitare devant un feu de camp. Alors que ça, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle, si vous voulez.
C'était insoupçonné, insoupçonnable.
Oui, ça pouvait pas se... Voilà, ça pouvait pas se savoir. Enfin, c'était important que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à toute cette histoire qui puisse finir d'apporter cette pièce.
Alors, cette Juliette en question, elle arrive à aimanter l'intelligence et l'intellect de la narratrice à tel point qu'elle va faire des recherches et elle va la retrouver.
Oui. Elle la retrouve au détour d'un carnet, justement. Son nom a été plus ou moins présent un peu partout. Elle l'avait pressenti, il était noté dans des pages de carnet, il était noté dans des livres, et elle finit par la retrouver. Voilà.
Et c'est une vieille dame adorable.
Oui, qui est particulièrement touchée, alors qu'elle n'a pas vu le personnage du père et défunt pendant des années. Et elle est touchante parce qu'elle elle montre à quel point parfois les attachements perdurent par-delà le temps, et notamment les amours de jeunesse qui restent incandescents parfois pendant de longues années, sans être particulièrement ravivés en quelque sorte.
Elle écrit merveilleusement bien aussi des lettres que vous recevez ou que le père a reçues par le passé, bien sûr. D'où lui vient cette volonté d'écrire et de partager?
Je sais pas, il fallait.
C'est sa génération qui veut ça.
Peut-être, ou c'était juste, il fallait aussi un personnage qui était. Le personnage du défunt père était poète. Seulement, la narratrice, sa fille, ne le savait pas vraiment. Mais elle pressentait qu'il l'était. Donc finalement, le fait d'avoir mis en scène cette lettre d'une grande poésie, écrite par une femme, peut-être poète aussi à ses heures, ça fait écho justement à cette facette de sa personnalité.
Dans votre roman, il y a aussi deux personnages qui apparaissent très très furtivement. Ce sont des personnages emblématiques de la littérature américaine. Autrement dit, le scribe Bartleby et puis Huckleberry Finn. C'est une volonté pour vous d'illustrer des lectures passées que vous avez eues ou des passions par rapport à la littérature anglo-saxonne?
Alors la référence à Huckleberry Finn, ça donnait vraiment une image du père en hobo, c'est-à-dire en
vagabond.
Voilà, en vagabond, en va-nu-pied, heureux dans la nature, au clair de lune, avec presque rien. Donc ça, c'était important pour moi, cette figure-là, du vagabond contemplatif qui regarde passer l'eau, quoi, ou les nuages. Alors, quant à la littérature américaine, moi, je suis très amatrice, mais justement, ça m'a beaucoup... pas forcément pour l'écriture de ce livre-là, mais ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. J'ai lu énormément de choses avec des gens qui partent en pick-up dans les montagnes le soir et qui disent rien et qui vont à la chasse aux biches. Et qui, après, ne se disent rien non plus au pub. Ou bien, voilà, des taiseux dans les montagnes, voilà, dans les montagnes venteuses... du Montana ou j'en sais rien.
Et la référence à Bartleby, c'est je préférerais ne pas, c'est quoi?
Bah c'est en fait ce livre, c'est aussi quelque chose sur le deuil et la façon dont on le vit. Et en fait quelque part Bartleby résiste. Il veut pas faire ce qu'on lui demande. Et dans les situations de deuil, on vous demande de vous dépêcher de faire votre deuil déjà, et puis ensuite de vider les maisons, de trier les souvenirs, de tout jeter, d'être volontaire en quelque sorte. D'être volontaire, d'être productif dans un moment où vous êtes dévasté. Et donc la référence à Bartleby, c'était ça, c'était celui qui ne veut pas faire ce qu'on lui prescrit ou ce qu'on lui demande, et qui résiste passivement à des injonctions complètes, absurdes finalement.
Avec l'étonnement du monde extérieur, en quelque sorte aussi. Anne Pauly, dans votre livre, on pourrait penser que le personnage principal, c'est la personne qui meurt. Et de mon côté, je pense plutôt que le personnage principal, c'est vous-même. C'est un livre sur la fille, par rapport à son père.
Ça dépend d'où on se place. C'est ce que je dirais par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est que c'est... vraiment un livre sur le père, mais évidemment, et sur le deuil du père. Mais dans ce deuil, il y a évidemment un moment de revie, c'est-à-dire un moment où le drame est passé, où la dévastation est passée aussi, et où on recommence à vivre. En tout cas, la narratrice ressent la vie remonter en elle et peut à nouveau lire les signes qui se présentent à elle, et donc continuer l'histoire, en quelque sorte, revenir à la vie.
Avant que j'oublie, c'est paru chez Verdier. Est-ce qu'il y a d'autres des projets littéraires chez vous, Anne, en ce moment?
Pas vraiment. J'ai une vague idée. Je voudrais écrire sur les médiums, je crois. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Un roman avec plusieurs personnages. Mais je ne sais pas comment ça va s'organiser.
En tout cas, c'est un très bon début. C'est un bon départ. Et puis, on est ravis de vous avoir reçu ici même pour parler de votre livre. Avant que j'oublie, merci beaucoup, Anne Pauly, d'avoir été mon invitée.
Merci.